C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
L'assassin habite à côté, de Florence Dutruc-Rosset. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu peur? Très peur. Parce que moi, il y a quelques semaines, j'ai eu la trouille de ma vie. Bien sûr, tout le monde a peur de descendre tout seul à la cave ou de se retrouver nez à nez avec une grosse araignée velue. Mais moi, je vous parle de la vraie peur. Celle qui vous fait trembler les genoux et claquer des dents. Aïe, 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 rien que d'y penser, ça me glace le sang. Tout a commencé le jour où un homme est venu s'installer dans la maison d'à côté. C'était un événement parce que la maison est abandonnée depuis des années. Les murs sont devenus tout gris, tout tristes. À certains endroits, il y a même de la moisissure. De grosses toiles d'araignées pendent du toit. Les volets sont cassés. Ils grincent même quand il y a un pas de vent. Tout autour, les mauvaises herbes et les ronces ont tellement poussé qu'elles m'arrivent aux épaules. Je suis sûr qu'il y a des rats et des serpents là-dedans. Bref, un homme est venu habiter dans cette maison. Il était habillé tout en noir. Il avait les cheveux longs et gris, comme les murs de la maison. Son visage était tout pâle et avait des yeux noirs et brillants. Et puis, il m'a paru très grand. Papa a beau dire qu'il n'est pas si grand que ça, moi je suis sûr qu'il mesure 2 mètres. Pendant des semaines, je l'ai observé discrètement, le voisin. Il ne parlait à personne dans le quartier. Parfois, il restait enfermé toute la journée sans ouvrir les volets. Et quand la nuit tombait, aucune lumière ne brillait chez lui, à part une petite lampe au sous-sol. Je me suis souvent demandé ce qu'il y fabriquait dans ce sous-sol. J'avais remarqué qu'il sortait tous les mardis soirs. J'ai plusieurs fois eu envie de le suivre, mais quelque chose me disait qu'il valait mieux rester chez moi. Chapitre 2. Un soir, j'ai été témoin d'une chose abominable. C'était un soir du mois dernier. Maman m'avait demandé d'aller chercher Mozart dans le jardin. Mozart, c'est mon chat. J'étais en train d'agiter des feuilles par terre pour attirer Mozart quand, tout à coup, j'ai aperçu le voisin qui rentrait chez lui. Je me suis caché derrière un arbre. Mince alors, il n'était pas seul. Une dame l'accompagnait. C'était bien la première fois qu'il recevait quelqu'un chez lui. Ils sont entrés dans la maison. J'ai entendu la porte claquer. Et puis plus rien. Je me suis remis à la recherche de Mozart. Soudain, j'ai entendu un hurlement terrible, un cri d'horreur, le cri d'une femme qu'on égorge. Mon cœur s'est arrêté de battre, ce cri résonnait dans ma tête. C'était affreux. Aucun doute, ce cri venait du sous-sol de mon voisin. J'ai été pris de panique et j'ai couru jusqu'à la maison. Mozart a détalé lui aussi. Il est arrivé avant moi dans le salon. Mon cœur battait la chamade. Je suis monté directement dans ma chambre. J'avais du mal à respirer. Et là, j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait de la lumière au sous-sol. J'ai attendu longtemps. Je voulais voir ce qu'il allait se passer. Je voulais voir la dame sortir de la maison, rentrer chez elle. Je voulais être sûr qu'il ne lui était rien arrivé. Subitement, la porte de la maison s'est ouverte. J'ai retenu mon souffle. Pourvu que... Non, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas possible. C'était trop horrible. Le voisin, porter une blouse avec plein de taches dégoulinantes et il traînait derrière lui un énorme sac poubelle qui semblait être très lourd. Aussi lourd qu'un être humain. Mais je rêvais. C'était impossible que mon voisin fût un assassin. Il n'avait pas tué cette pauvre femme. Elle était sûrement sortie par une autre porte. Mais non, je n'avais pas quitté la maison des yeux. Peut-être que mon voisin se débarrassait tout simplement de ses ordures. Mais alors pourquoi avait-il une blouse pleine de taches, comme du sang? Tout ça était vraiment abominable. Il fallait que je prévienne mes parents le plus vite possible. Eux, ils sauraient. Je suis descendu dans le salon et je leur ai tout raconté en bafouillant. Quand j'ai commencé à parler de la poubelle, maman m'a coupé la parole. Elle est devenue toute rouge et elle s'est tournée vers mon père en levant les yeux au ciel. « Mais ton fils est complètement intoxiqué par la télé. Toute cette violence des séries américaines. Évidemment, il y a des cadavres à l'appel. Ça lui monte à la tête. » J'ai essayé de lui expliquer que je n'avais rien inventé et que c'était la vérité. Mais papa s'est levé, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « À partir de demain, plus de télé les jours de semaine. Uniquement le week-end. Allez, monte te coucher maintenant. » Alors là, j'étais dégoûté. Non seulement personne ne me croyait, mais en plus j'étais privé de télé. Et tout ça à cause de mon voisin de malheur. Je suis retourné dans ma chambre. J'avais envie de pleurer. Je me suis jeté sur mon lit et j'ai écouté mon iPod en mettant le volume à fond. Chapitre 3. Le lendemain, je n'avais qu'une idée en tête. Voir Totor. Totor, c'est mon meilleur copain. Maman dit qu'il n'a pas une bonne influence sur moi, et que c'est un mauvais élève, et qu'il est toujours prêt à faire des bêtises. Oui, c'est vrai. Mais c'est justement pour ça que c'est mon copain. À la récré, j'ai pris Totor entre quatre yeux, et je lui ai raconté toute l'histoire. La dame, le cri, la blouse, le sac poubelle, tout. Totor n'en revenait pas. Pour lui, ça ne faisait pas un pli. Mon voisin était un fou dangereux évadé de prison qui découpait les gens en morceaux. Je lui ai dit, « Totor, tu ne crois pas que tu y vas un peu fort? Après tout, ce sont peut-être des coïncidences. » Il m'a répondu, « Des coïncidences? Mais tu rêves! Écoute-moi, cette femme savait tout sur ton voisin. Elle voulait le dénoncer à la police. Alors lui, il la tire chez lui, il la tue, la découpe en morceaux et la jette aux ordures. Le crime parfait. Ce type est un monstre. » Alors là, ça m'a fait frémir. Les explications de Totor collaient parfaitement avec ce que j'avais vu. Maintenant, c'était sûr. Mon voisin était un assassin, un malade assoiffé de sang. Il fallait faire quelque chose. J'ai proposé. Et si on prévenait la police? Totor m'a regardé l'air ébahi. La police? Mais t'es dingue? Tu veux être la prochaine victime de ton voisin ou quoi? Glurps. J'ai avalé ma salive de travers. L'idée de finir en morceaux dans un sac poubelle ne me réjouissait pas vraiment. J'en avais même des sueurs froides le long du dos. Totor a ajouté. J'ai une meilleure idée. Tu veux être sûr que ton voisin est un meurtrier? Tu veux des preuves? Alors il n'y a qu'une seule solution. Je n'osais penser à la fin de sa phrase. Mais elle est tombée comme un couperet. Aller chez lui inspecter son sous-sol de plus près. Aïe, ce que je redoutais de plus, c'est impossible de me défiler. Alors voilà, Totor et moi, on avait décidé d'entrer en cachette dans la maison qui me faisait le plus peur au monde. Chapitre 4. Avec Totor, on avait tout prévu. Notre expédition aurait lieu le mardi suivant. J'avais réussi un coup de maître. Maman avait accepté que Totor dorme à la maison. Comme j'avais eu un 14 en maths, ça n'a pas été très dur. En plus, le lendemain, c'était le premier jour de la fête foraine. J'avais donc dit à maman que Totor et moi, on irait tôt le matin. Tout semblait marcher comme sur des roulettes. J'avais presque oublié ma peur. Malheureusement, elle est vite revenue le jour J. Le mardi soir, à table, je n'ai pas ouvert la bouche. C'était Totor qui racontait sa vie et maman qui essayait de le convaincre de travailler en classe. Moi, je pensais vivement demain que tout soit fini. Après le repas, Totor et moi, on a fait semblant d'aller se coucher. On a enfilé notre pyjama, on a dit bonsoir à tout le monde, gentiment, et on est monté dans ma chambre. Là, sans bruit, on s'est rhabillés et on a attendu que papa et maman aillent dormir. On n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre pour être sûr que l'assassin partirait, comme tous les mardis soirs. À un moment, le voisin est sorti. Il a fermé sa porte à clé. Il est monté dans sa voiture et il a disparu au coin de la rue. « Le chemin est libre !» m'a murmuré Totor. Moi, j'ai préféré ne rien dire, sinon ma voix aurait trembloté. Totor avait apporté des tas de trucs dans son sac à dos. Une lampe de poche, une corde, des gants de jardinage, une loupe, des tournevis, un appareil photo. Je lui ai demandé « Mais à quoi ça sert tout ça, Totor ?»« Mais j'en sais rien, moi, mais un grand détective doit toujours avoir du matériel sur lui !» Quand il n'y a plus eu aucun bruit dans la maison, Totor et moi, on est descendus sur la pointe des pieds. On a ouvert délicatement la porte d'entrée et on s'est faufilé dans le jardin. La nuit était vraiment sombre. J'avais beau chercher la lune pour me rassurer, je ne la trouvais pas. Mince, une nuit sans lune, c'était bien ma veine. Je suivais Totor qui avait l'air d'un fantôme noir. Il a allumé la lampe de poche et s'est enfoncé dans les hautes herbes, celles qui grouillent de rats et de serpents. Je faisais une grimace horrible chaque fois que je posais le pied par terre. J'étais persuadé que j'allais écraser quelque chose de gluant. De toute façon, j'étais bien obligé d'avancer. Je n'allais pas rester là, en plein milieu de cette forêt vierge. Au bout d'un moment, on est arrivé devant la porte d'entrée de l'assassin. Totor m'a dit « Même pas besoin de mon matériel. Il y a un carreau cassé. » On n'a qu'à passer la main et ouvrir la porte-fenêtre de l'intérieur. J'ai vu ça dans les films. Et en un clin d'œil, on s'est retrouvé chez l'assassin. Ça sentait le renfermer là-dedans. Et il faisait aussi froid que dehors. Totor m'a mis la lampe de poche dans les mains et m'a dit « Prends ça, je ferme la porte. Toi, tu n'as qu'à chercher le sous-sol. » Il faisait noir dans cette pièce, très noir. J'ai bougé la lampe de poche dans tous les sens pour inspecter le moindre recoin. Et si l'assassin était là? S'il était revenu sans bruit pour nous piéger? S'il était dans un fauteuil, là? Ou allongé par terre, prêt à gripper à nos jambes? Ou derrière moi? À ce moment-là, une main s'est posée sur mon épaule. J'ai poussé un hurlement. Je me suis retourné, prêt à m'évanouir. C'était Totor. « Mais c'est moi, gros trouillard. Allez, avance, faut pas traîner. » Je me suis enfoncé dans le noir, guidé par le mince filet de lumière de ma lampe de poche. Tout à coup, j'ai aperçu un escalier. C'était le passage qui menait au sous-sol. J'ai hésité un instant. Et si on trouvait des cadavres? Totor m'a poussé dans l'escalier. Je suis descendu comme un automate. J'avais une grosse boule dans l'estomac. Au bas des marches, il y avait une porte. C'était là. Peut-être que si je l'ouvrais, un monstre allait me sauter dessus et me déchiqueter en morceaux. Mais peut-être aussi qu'on n'allait rien trouver et que ce serait une pièce banale. Mais oui. Totor et moi, on avait eu trop d'imagination. Derrière cette porte, il y avait sûrement un bureau et quelques livres bien rangés. J'ai ouvert la porte d'un coup sec. Et là, dans le halo de ma lampe, horreur! Il y avait une boîte remplie d'yeux, des yeux ronds comme des billes qui nous regardaient. Et à côté, un squelette pendu au plafond. J'ai lâché ma lampe en hurlant. Totor a déguerpi en moins de deux. On criait comme des fous. On est sortis aussi vite que l'éclair. On a couru dans les hautes herbes sans se retourner et on est retourné à la maison complètement terrorisé. Chapitre 5. Le lendemain, c'était mercredi. Le jour de la fête foraine. Totor et moi, on n'avait pas fermé l'œil de la nuit. On avait grelotté sous notre couette sans se dire un mot. Maman est venue dans notre chambre de bonheur. Elle croyait qu'on serait fou de joie à l'idée de retrouver les autotamponneuses et les montagnes russes. Mais nous, on n'avait pas du tout envie d'y aller. On avait même un peu mal au cœur. À la fête foraine, on aérait comme deux zombies. On passait devant les attractions, le regard dans le vague. Et puis soudain, j'ai aperçu un grand type avec un costume noir. Ça m'a fait comme un coup dans la poitrine. Je l'ai regardé de plus près. L'assassin ! Il était là, À la fête foraine. Il était sûrement à la recherche d'une nouvelle victime. Oh, quelle horreur! Il parlait avec une dame qui vendait les billets pour le train fantôme. C'était peut-être elle, la prochaine sur la liste. Totor m'a pris par le bras et m'a entraîné vers eux. J'ai crié « Mais t'es fou! T'es trop dangereux !» Totor m'a répondu « Écoute, l'assassin ne nous a jamais vus. Il ne nous connaît pas. Ne t'inquiète pas, nous ne risquons rien. Nous avons fait la queue pour le train fantôme. » Je n'osais pas regarder l'assassin. Mais quand on est arrivé à notre tour de prendre les billets, j'ai été bien obligé. Et alors là, j'ai cru que j'avais une hallucination. C'était une revenante qui me tendait mon billet. La dame, découpée en morceaux, jetée dans un sac poubelle, était là, en chair et en os. Elle discutait avec l'assassin. Alors là, je n'y comprenais plus rien. Je n'ai pas eu le temps de ranger les idées qui s'entrechoquaient dans ma tête. Un type nous a installés, Totor et moi, dans un wagonnet et on a commencé le parcours du train fantôme. Il faisait tout noir et il y avait de drôles de bruits. Des craquements bizarres, des cris d'animaux. Et tout à coup, une chauve-souris nous a frôlé les cheveux. Totor et moi, après tout ce qu'on avait vécu, on n'allait pas être impressionnés par un simple spectacle. Le wagonnet avançait de plus en plus vite. À un moment, Dracula nous a barré le passage. Il était drôlement bien fait. Il avait deux dents de vampire et du sang qui dégoulinait sur son menton. Berk. Totor et moi, on était morts de rire. Et puis le sorcier est apparu. C'est là que j'ai eu un choc. Elle poussait exactement le même cri que celui que j'avais entendu dans le jardin le soir du crime. Je l'aurais reconnu entre mille. Un peu plus loin, un squelette est tombé du plafond. Exactement le même squelette que dans le sous-sol de l'assassin. Totor et moi, on s'est regardés en même temps. On venait de tout comprendre. Quand on est sorti du train fantôme, mon voisin est venu vers moi. Il m'a dit « Je te reconnais, toi. T'es mon voisin, non ? Je te vois passer tous les jours. » J'ai bredouillé « Ça vous a plu, mon train fantôme ? Allez, Madame Rose, donnez-leur deux billets gratuits. » Alors là, Totor et moi, on n'en revenait pas.
Chapitre 6.
Mon voisin, il est génial. Depuis la fête foraine, je suis sans arrêt chez lui. D'ailleurs, je trouve que ça ne sent pas du tout le renfermer. D'accord, il n'ouvre pas souvent les volets, mais c'est parce qu'il travaille tout le temps. Son sous-sol, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Il y a des monstres fabuleux. Ils sont tellement bien faits qu'on dirait des vrais. En ce moment, mon voisin, il est en train de faire la tête de Frankenstein. Il lui a fait un visage en plastique avec des tas de cicatrices. Il lui a mis des yeux noirs et une perruque. Maintenant, il le maquille pour le rendre encore plus affreux. Au fait, sa blouse de travail, elle est encore plus tachée de près que de loin. Il y avait de la peinture rouge, bleue, verte. Et ce n'est pas tout. Mon voisin, il a un super appareil pour enregistrer les sons. Il fait des essais de cris pour les films d'horreur. Je n'ai jamais osé lui avouer que je l'avais pris pour un assassin. Il me prendrait pour un dingue. Ce qui est marrant, c'est qu'il m'a plusieurs fois demandé de sortir des sacs poubelles. Qu'est-ce qu'ils sont lourds ! Si vous saviez ce qu'il y a dedans, des morceaux de plâtre. Oh ! En tout cas, ce qui est super, c'est que la semaine prochaine, Totor et moi, on commence notre stage. Mon voisin veut bien nous apprendre son métier. Oh, j'ai hâte de m'y mettre. J'imagine déjà la tête de maman quand elle verra Dracula dans son placard.
Le prince de mots tordus, les tables de la fontaine, de Pef. Marie-Parlotte, nid quoi là ? Affable, affable ! Ordonna le prince de mots tordus en frappant dans ses mains. Sa fille eut vite fait de réagir. On dit à table, papa, pas affable. Tu es parfois fatigant avec tes mots tordus, tu nous coupes l'appétit. Marie-Parlotte a raison, ajouta le petit nid quoi là. On dit à table. Le prince ne savait pas s'il fallait donner un coup de poing sur la table ou sur la fable, mais il se ressaisit. Ceci est pourtant une fable, avec des verres, des assiettes et des couverts, non ? La princesse des écoles tenta de ramener le calme. « Chers enfants, vous devez toujours écouter votre père et filer droit, même s'il est quelquefois un peu tordu. » À peine la famille s'était-elle mise à table, ou à fable, que la lumière s'éteignit. Les lentes poules faisaient les mortes. Le prince leva la tête, puis alla vérifier si les appareils ménagers fonctionnaient encore. il se pencha pour écouter le four rire et ouvrit la porte du micro-monde encore tiède de la cuisson des pommes de terre. Quant à la télévision, elle était toujours en veille. Tout va bien de ce côté, mais je dois vérifier si les lentes-poules ne sont pas grillées. Il me faut monter sur la fable. Sur la table, corrigea le petit nid de koala. Comme tu voudras, maugréa le prince de mots tordus. L'essentiel est d'agir. Encouragé par toute la famille, le prince prit son élan, mais ne put atteindre le plafond. Il retomba lourdement sur la table qui fit entendre un horrible craquement. Il n'y avait plus ni fable ni table, juste le tableau désolant des assiettes cassées, des carafes renversées et des couverts éparpillés. Le petit nid de koala éclata de rire. « Oh papa, c'est la première fois que tu te débarrasses avant même d'avoir mangé. C'est gentil de ta part, mais j'ai faim, moi. »« Je ne suis pas dans mon assiette, » murmura celui-ci. « Tu es dans la mienne, » précisa Marie-Parlotte. « Tu as le menton tout barbouillé. Faudra-t-il te passer à la machine à baver ?»« Merci, je suis vraiment lessivée, » se désola le prince. Tous mangèrent sur le pouce et burent dans le creux de leurs mains avant de penser à laver celle qui avait servi d'assiette. « Quel repas !» se désola la maîtresse de maison. « Un peu léger, même si j'avais préparé des petits pois. « Il nous faut une nouvelle table !» dirent en chœur les enfants. « Comme vous voudrez. Allons en ville, » proposa Motordu. « J'ai eu vent d'une campagne de promotion pour des meubles. Nous trouverons bien des marchands de tables. » Une campagne ? Avec des mares, des champs en pleine ville ? S'étonna le petit nid de koala. J'aimerais bien voir comment c'est possible. Le prince ne répondit pas, estimant qu'on ne saurait jamais, entre son fils et lui, lequel des deux était le plus tordu. La famille monta en toiture et gagna la zone commerciale où les magasins regorgeaient de messages publicitaires super mâchés. Il y avait bien un marchand de table, mais la déception fut grande. La première table proposée, une table de multiplication, leur parut bien trop petite pour 4 personnes. « Justement, assura le vendeur, 2 x 2, 4 ? Avec les rallonges, vous pouvez aller jusqu'à 4 x 4 chaises !» s'écria Marie-Parlotte. « Et justement, nous n'avons que 4 chaises !» précisa Nid Koala. « Dommage !» regretta le vendeur. « Et ce modèle, monsieur, je suis prince de mots tordus. »« Parfait, vous devez recevoir beaucoup. Notre modèle 9x9 devrait vous convenir. 81 invités autour de cette seule table. Quelle fête !»« Hélas !» soupira Marie-Parlotte. « J'imagine d'ici la fête que ferait maman de devoir cuisiner pour tant de personnes. » La table à repasser était à l'évidence trop étroite. Tous passèrent et repassèrent devant elle, sans pouvoir se décider. Plus loin, une table à dessin séduisit le petit nid de koala. Mais son père objecta que le dessin ne nourrissait pas son homme et qu'il préférait un bon coup de fourchette à un joli coup de crayon. Marie-Parlotte déclara, quant à elle, qu'elle n'aimait pas la compote de gomme. Le vendeur était aimable. Mais il recommanda à la famille de se rendre dans un autre commerce. Le prince se réjouit de ce bon conseil et lui demanda vivement l'adresse du dit marchand. « C'est un tabuliste agréé, » certifia le vendeur. « Il a fourni en table les grandes écoles et même les petites. En marchant, vous tomberez sur ce marchand. J'ignore son nom, mais vous trouverez sans peine le magasin situé tout près d'une fontaine. » La famille se hâta dans la direction indiquée et fut toute heureuse de parvenir au but. L'enseigne du magasin indiquait seulement « Aux tables de la fontaine, chez Jean. » « Bonjour, mon nom est Jean, de la fontaine. Vous avez pu constater combien celle-ci était proche de mon établissement. » « Ce nom m'est familier, » reconnut le prince, « mais je ne sais pas pourquoi. » « Ainsi, vous faites des tables. » « Oui, et depuis fort longtemps. » À ce titre, elles jouissent d'une réputation sérieuse. Mon ancêtre a lancé cette mode au temps des rois, il y a des siècles. La princesse des écoles fit une remarque. Mon mari n'est que prince, mais il se trouve que nous avons, comme tout un chacun, besoin d'une table. Les deux enfants étaient fascinés par le grand nombre de tables exposées. Monsieur Jean, de la Fontaine, prévint. Mon catalogue ne comporte aucune référence. Chaque table est unique. Elle possède son titre et son histoire. Ce serait pour combien de personnes ? Nous sommes quatre, fit le prince. Deux adultes et deux dansants, compléta Marie-Parlotte en sautillant. Je vois, dit Monsieur Jean. Ce modèle-ci, le corbeau et le renard, est donc trop petit, tout comme celui-là, le cheval et le loup. Oh oui, papa, prends-la, supplia Marie-Parlotte, j'adore les chevaux. Et moi les loups, ajouta le petit nid de koala. La princesse des écoles fit remarquer aux enfants que ces modèles, bien que fort joliment décorés de motifs représentant leurs animaux préférés, avertissaient les futurs acheteurs qu'ils ne pouvaient accueillir que deux personnes, comme, par exemple, une place pour le corbeau et l'autre pour le renard. « Je croyais qu'on était là pour acheter une table », regretta le petit nid de koala. « On se croirait en glace pendant une leçon de calcul. J'en ai froid dans le dos. » Monsieur Jean appréciait l'affection des enfants pour les animaux. Alors, passons à d'autres modèles. Voici la table de la chauve-souris et des deux belettes. Mais nous sommes quatre. Il me manque encore une place, fit remarquer le prince. Je me sens aller. Trois. Et nous sommes quatre. Puis-je vous présenter ce modèle, la table du lion, du singe et des deux ânes ? Parfait, déclara Motordu. J'apprécie occuper la place du lion, le roi des animaux. « On n'est pas des ânes !» protestèrent ces deux enfants. « Et moi, je ne suis pas une guenon !» précisa la princesse des écoles. Monsieur Jean se tut un instant, réfléchit et s'exclama soudain. « Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Suivez-moi. » Entraînant la petite famille à sa suite, il se faufila entre des dizaines de tables. « Quel bazar !» s'exclama le petit nid koala. « Il y a vraiment de tout. Un nez rond, le linge et léopard, l'âne et ses maîtres, le chien à qui on a coupé les groseilles, les souris et le chat-puant, les deux habits, le lion et le casseur. Nous y sommes, fit Monsieur Jean. Je vous présente un modèle vraiment unique. La table du corbeau, de la gazelle, de la tortue et du rat. Youpi ! Cria Marie-Parlotte. Papa, tu as toujours eu le corbeau. Maman est belle comme une gazelle. Toi, nid de koala, tu adores grignoter les miettes de pain sur la nappe. Et moi qui suis toujours lente à manger, cette tordue me va très bien. Mais nous ne pouvons pas l'emporter aujourd'hui, se désola le prince. Notre toiture est bien trop petite. Ne vous faites pas de soucis, les rassura Monsieur Jean. Ici, on livre nos tables à tous nos clients, où qu'ils soient. Même dans un chapeau ? Demanda Marie-Parlotte. Oui, mademoiselle. Alors je vous tire mon château, conclut la princesse des écoles. Le prince passa commande et régla cette table, chère à leur cœur, mais aussi à leur porte-monnaie, car c'était un très beau modèle. La famille regagna le chapeau en toiture. Pendant le trajet, le petit nid de koala, tout à sa joie, ne cessait de jacasser. « Quand je serai grand, je m'achèterai la table que je voudrai. J'ai déjà repéré la table de la laitière et du poteau lait. » Le prince avait le moral. Il avait même retenu la morale de l'une d'elles, lue au bout d'une table de Monsieur Jean. Il chuchota aux oreilles de son fils. « Dans la table du lion et du rat, un lion se retrouve prisonnier d'un filet. Il hurle et se débat. Un rat, captif comme lui, ronge tranquillement une maille et le filet se rompt. « Tu es encore bien jeune, mon fils, mais n'oublie pas ces mots. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. » Le petit nid de koala partit d'un grand éclat de rire et corrigea son père. « Ma chance et longueur de dents ont plus de force que de fromage. » « Je te reconnais bien là, mon fils. Ton humour tordu m'aide à vivre. » Il leva la main, puis la referma et dit très sérieusement « Que serais-je sans doigts ?»« Eh oui, lui lança nid de koala, on a souvent besoin d'un plus petit que roi. C'est pourquoi je suis heureux que tu sois seulement un prince. » La princesse des écoles, quant à elle, parvint à la conclusion que rire et bonne humeur seraient toujours les bienvenus autour de leur nouvelle fable.
Le jardin des fées, écrit par Georgia Burgthom et illustrée par Isabella Mazzanti, des éditions Gauthier Languereau. Mimi était une petite fille comme les autres, à la vie tout à fait ordinaire. Elle avait des jouets pour s'amuser, un petit frère qui n'était pas trop agaçant, et on lui faisait des gâteaux pour ses anniversaires. Mimi ne demandait pas beaucoup de choses, mais il y en a une qu'elle désirait plus que tout. Voir une fée dans son jardin. Mimi savait que les fées étaient douces, gentilles et sages. Elle était sûre qu'elle ne voudrait vivre que dans le meilleur des jardins. Alors, tous les matins, elle travaillait dur pour rendre son jardin parfait. Toute imperfection devait disparaître. Elle arrachait toutes les mauvaises herbes. Elle ôtait et chassait les chenilles, qui faisaient des trous de dentelle dans les feuilles. Elle pulvérisait les plantes pour tenir les insectes à distance. Et chaque nuit, Mimi observait et patientait à la fenêtre. Mais chaque nuit, elle se laissait gagner par le sommeil au fil des heures, jusqu'à se réveiller au petit matin sans avoir vu l'ombre d'une fée. Mimi travailla de plus belle. Elle attacha les fleurs, ratissa les feuilles, tailla l'arbre, raccourcit la haie, coupa l'herbe et elle pulvérisa encore quelques nuages d'insecticides sur les fleurs pour bien faire. Et aux quatre coins du jardin, elle disposa des maisonnettes de fées pour qu'elles puissent s'y installer comme chez elles. « Il n'existe pas de jardin plus parfait au monde !» se dit-elle. Malgré tout cela, les fées ne venaient pas. N'aimait-elle pas ces maisons de fées? Le jardin n'était-il pas assez joli? Mimi se donnait beaucoup de mal pour entretenir un jardin parfait. Mais faisait-elle fausse route? Un matin, Mimi regarda autour d'elle. Tout était impeccable. Pas de feuilles mordillées, ni de pétales tombés, et aucune chenille en vue. Il ne lui restait plus rien à faire en dehors des touches finales. Un petit sentier de fées en cailloux brillants et un panneau où elle avait tracé une écriture gracieuse « Bienvenue » pour qu'elle se sente comme chez elle. Plus tard ce jour-là, alors que le clair de lune projetait des ombres sur le jardin toujours vide, Mimi ne put s'empêcher de verser une larme. C'est alors que tout à coup, un groupe de lumière scintillante apparut. C'était les fées. Elles se rapprochèrent encore et encore, papillonnant et rayonnant dans toute leur sphère lumineuse argentée. Mimi avait vu juste. Les fées étaient douces et gentilles, et elles n'avaient pas supporté de voir la fillette contrariée. « Mimi, dit la première fée, ne pleure pas. Merci pour ces belles maisons, ce sentier et le panneau de bienvenue que tu as fabriqué pour nous. Mais de rien, répondit Mimi. Je voulais que le jardin soit parfait pour vous et que vous ayez envie de vivre ici. » La première fée sourit tristement. Mimi, nous étions là depuis le début. Mais quand tu as ratissé toutes les feuilles, tu as aussi ratissé nos nids douillets. Et quand tu as arraché les herbes et pulvérisé de l'insecticide, tu as rendu nos amis chenilles malades. Ton jardin est parfait pour des humains, mais pas pour des fées. Si tu veux que l'on revienne, il faut nous redonner notre ancien jardin sauvage. » Mimi repensa aux chenilles qu'elle avait chassées et aux feuilles qu'elle avait ratissées et elle se sentit honteuse. « Je suis vraiment désolée, » regretta-t-elle. « Ce n'est pas grave, Mimi, » dit la première fée. « Nous savons que tu voulais bien faire. Rares sont celles et ceux qui savent ce qui fait un véritable jardin de fées. Mais maintenant que tu le sais, veux-tu bien nous aider ?» Après ce soir-là, Mimi regarda son jardin d'un œil très différent. Elle se levait toujours tous les matins pour vérifier s'il était parfait, mais « parfait » voulait dire tout autre chose désormais. Mimi voyait les fées et parfois non. Mais elle savait toujours qu'elles étaient là dans son jardin de fées. Merci, Mimi.
venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche, en partenariat avec les radios du département, Radio des Boutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.